UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à nouveau à nos émissions en version originale. C'est Radio UMH, la radio de l'Université Miguel Hernández d'Elche sur la Costa Blanca espagnole. Et aujourd'hui, spécialement avec nous, les lycéens qui font des études de français de cuarto de la ESO. En français, ce serait seconde. Et voilà pour un voyage au sein de la francophonie. Auprès donc de ces élèves charmants et qui viennent accompagnés également de leur professeur qui ne va pas parler mais qui est à l'écoute et qui prend des photos pour nous en ce moment, monsieur Raoul Morillas, auquel nous disons bonjour, et au contrôle technique, monsieur Borja Cabrera. Nous allons commencer donc par ce voyage un petit peu parce qu'il s'agit d'un programme européen, c'est pour le programme européen des langues, le PEL, voilà, qui est lié au cadre européen commun de référence des langues européennes, le passeport européen des langues. Ils ont réalisé un travail avec des expositions, des canvas, beaucoup de choses magnifiques. Et aujourd'hui, nous poursuivons donc dans cette recherche personnelle qu'ils ont effectuée par petits groupes. Et nous allons commencer peut-être par l'espace de la francophonie. Commençons dans cette première partie du programme de cette émission. Par l'Europe, si cela vous convient. Et nous avons avec nous pour l'Europe deux personnes incroyables qui sont Aitana et Ariel. Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, je vais quand même vous poser des questions par rapport à l'Europe. Est-ce que je suis en train de chercher mes questions parce que je ne les vois pas. Je ne les trouve pas en ce moment, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez cherché comme chose? Par exemple, si je vous pose la question de quelles sont les spécialités culinaires emblématiques de la Belgique?
Donc, du coup, dans les spécialités culinaires, on peut trouver que la cuisine belge est célèbre pour ses plats savoureux et ses douceurs. Les moules frites, souvent accompagnées d'une sauce maison, sont un incontournable. Les gaufres, qu'elles soient de Liège ou de Bruxelles, sont appréciées pour leur texture croustillante et leur douceur. Le chocolat belge, reconnu mondialement, est fabriqué avec un savoir-faire traditionnel, avec des marques comme Neuhaus ou Leonidas. La bière belge aussi, avec ses centaines de variétés, accompagne parfaitement les repas ou se déguste seule. Parmi les autres spécialités, on trouve le waterzooi, un ragoût de poisson ou de poulet, les carbonades flamandes, qui sont un ragoût de bœuf à la bière, ou aussi les spekulos, ces biscuits épicés. Donc du coup, on trouve que la gastronomie belge reflète la diversité régionale et l'amour d'un bon vivre.
Waouh, c'est vraiment hyper intéressant. Et quand on pense vraiment à la Belgique, waouh. Moi, je suis vraiment un fan des chocolats Leonidas. Là, j'adore, c'est mes préférés. Et je viens de Suisse. Mais les Leonidas, oulala, qu'est-ce que c'est bon. Waouh, ben merci beaucoup pour cet aperçu vraiment très riche. Vraiment, franchement, Aitana, hyper intéressant. Et nous allons écouter maintenant votre camarade Ariel aussi, qui a travaillé un petit peu, qui a fait des recherches sur la Belgique. Et vous, vous allez nous faire voyager un petit peu sur ce que vous considérez les villes incontournables, c'est-à-dire les plus importantes à visiter en Belgique. Et qu'est-ce qui les rend uniques, hein?
Bruxelles, la capitale, est un centre politique et culturel, célèbre pour ses atomions, les remplaces et ses institutions européen. Bruges, avec ses canaux et son architecture médiévale, est un véritable joyau touristique. Anvers, connu par son port, est aussi une ville d'art avec des musées comme les musées d'art moderne. Rennes, entre tradition et modernité, offre un centre historique dynamique avec ses châteaux et ses églises gothiques. Liège, dans les régions wallonne est réputé pour servir étudiants, ses festivals et sa gastronomie. Chacune de ces villes possède une identité propre, mêlant d'histoire, culture et de modernité, ce qui en fait des destinations incontournables pour découvrir la paix.
Oui, c'est un pays que j'adore en particulier. Merci beaucoup, Ariel et Aitana, pour cette première approche. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup d'élèves. Ça va aller très, très vite. On n'aura vraiment pas le temps de nous attarder énormément donc, sur toute cette richesse vraiment de la francophonie qui touche les 5-6 continents. Mais au moins un aperçu général, ce qui n'est pas mal du tout. En tout cas, si je devais choisir une ville en Belgique, j'aurais beaucoup de mal parmi celles que vous avez citées. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Bruxelles en particulier. Bon, on va poursuivre donc ce voyage pour un pays qui m'est très proche. Et ce pays, c'est la Suisse, n'est-ce pas? Et nous avons avec nous donc deux personnes pour ce faire. Et ces deux personnes sont, en suivant l'ordre alphabétique, Adriana et Cléopatra, d'accord? Vous avez choisi la Suisse, soyez les bienvenus, bonjour.
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 Et nous commençons par exemple, Adriana, donc. Si on parlait un peu d'histoire, par exemple, selon vous, quelle est l'histoire de la Suisse et comment celle-ci a façonné, a construit donc son identité culturelle actuelle, d'après vos recherches? Parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette question.
Oui. Et l'histoire de la Suisse est riche et complexe, marquée par une longue tradition de neutralité, de fédéralisme et de multiculturalisme. Elle remonte à l'époque médiévale, avec la formation de la Confédération suisse en 1291. Et le quoi plus cantons ont une leur force pour sa défense contre l'invasion extérieure. Et la neutralité suisse instaurée officiellement au 19e siècle a permis au pays de rester en dehors des conflits mondiaux, renforçant son image de pays pacifique. Et la diversité linguistique avec l'allemand, le français et l'italien et les romanche reflète son histoire multiculturelle. Les Suisses a également été un centre de commerce, de finances et d'innovation, et notamment dans le domaine et de l'origine de la pharmacie et de la recherche scientifique. Son histoire a forgé une identité basée sur la stabilité, la démocratie directe et le respect des différentes cultures.
Vous avez fait vraiment un résumé excellent. Vraiment, vous avez vraiment presque tout dit, les choses importantes. La démocratie, vraiment, cette manière d'entendre la démocratie en Suisse qui est si particulière. La neutralité du pays, c'est le pays des référendums. On vote tout en Suisse, c'est vrai. Et puis, c'est un pays, comme vous l'avez très bien expliqué, où il y a 4 langues officielles, l'allemand, le français, l'italien. Romanche, c'est un petit paradis pour les personnes qui aiment les langues. Et voilà, merci beaucoup. Et un pays aussi en paix, uni depuis 1291. C'est waouh, c'est une bonne idée pour le monde aussi. Nous allons donc continuer tout de suite, immédiatement. Et maintenant, nous allons le faire avec une personne qui porte le nom d'une reine, la reine Cléopâtre. Cléopâtra, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai une petite question pour vous, on va voir, parce que je sais que vous avez travaillé sur beaucoup, beaucoup de questions, mais il y a une question en particulier qui m'intéresse, parce que je crois que, c'est une question identitaire. Pour vous, qui avez fait ce travail de recherche, quels sont les symboles nationaux suisses et leur signification aussi?
Les drapeaux suisses avec sa croix blanche sur le fond rouge est un symbole de neutralité, d'unité et de paix. La croix blanche représente la foi chrétienne, tandis que le fond rouge évoque le courage et la bravoure. La montre suisse est aussi un symbole mondial de précision et d'artisanat excellence. La fondue et le chocolat suisse sont, sont des symboles culinaires qui incarnent la convivialité et les traditions gastronomiques. La Suisse est également associée à ses paysages alpins, ses lacs et ses forêts qui symbolisent la nature préservée et la qualité de vie. Ces symboles reflètent l'identité nationale basée sur la paix, la précision, la diversité culturelle et le respect de la nature.
Oui, ça identifie très bien donc ce pays qui aime la nature, qui préserve sa nature, où il y a le respect de l'autre. Et voilà, et comme ça, pour tout dire aussi, enfin, la Croix-Rouge, en fait, est née à Genève, ma ville. Et on a inversé simplement l'ordre des croix. La croix blanche est devenue rouge sur un fond blanc. Et fond blanc, fond rouge, voilà, c'est toute la différence. Merci beaucoup pour ce voyage ultra rapide, mais hyper intéressant pour la Suisse. Et nous allons arrivons tout de suite, évidemment, absolument, à la France. Oh là là ! Et qui avons-nous pour nous parler de la France ? Alors, deux personnes qui ont vraiment bien travaillé sur cette question. Et je cite donc Fatima, d'un côté. Bonjour Fatima.
Bonjour.
Et nous avons également aussi avec nous Gabriella. D'accord ? Alors, vous avez bien travaillé dessus. Je sais que vous avez même réalisé un combat exceptionnel, vraiment un travail incroyable. Et j'ai des questions à vous poser. Est-ce que cela vous dit de parler, par exemple, de la cuisine française, par exemple ? Qui veut parler de cuisine française ? Par exemple ? Ça vous intéresse, oui. Oui, alors si vous voulez, quelles sont les spécialités culinaires françaises célèbres et leur origine? Fatima.
Okay. La cuisine française est renommée mondialement. Parmi ses spécialités, on trouve le croissant originaire d'Autriche, mais adopté en France. Le foie gras, une délicatesse du sud-ouest, et la ratatouille, un plat provençal. Le fromage comme le camembert et le roquefort est aussi emblématique. Le baguette, symbole de la culture parisienne, est un incontournable.
Incontournable, absolument. Voilà, quelle envie de manger. Vous n'avez pas faim maintenant, ces petits fromages, cette baguette, enfin toute cette cuisine, vraiment la ratatouille qui nous fait rire. On pense au célèbre personnage animé. Merci beaucoup Fatima pour cette question. J'en ai d'autres après pour vous quand même, parce que je crois qu'il faut quand même parler de la France. Hein. Mais continuons avec Gabriella maintenant, et j'ai une petite question pour vous aussi. On a parlé des symboles suisses. Et si on parlait vraiment des principaux symboles nationaux de la France et leur signification ? Gabriella, s'il vous plaît.
Et les flammes possèdent plusieurs symboles emblématiques, comme le drapeau tricolore bleu, blanc ou rose, qui représentait la liberté, l'égalité et la fraternité. La Marseillaise, hymne national, symbolise la lutte pour la liberté. La Tour Eiffel est un symbole mondial de la France, représentant
l'ingéniosité, n'est-ce pas?
Et le romantisme.
Ah oui.
Et la fleur de lys est aussi un symbole historique. À la monarchie française.
Merci beaucoup. Donc, drapeau tricolore, liberté, égalité, fraternité, la Marseillaise, c'est vraiment... Vous avez vraiment vous avez abordé les questions importantes. On va faire une petite pause musicale maintenant et on va reprendre avec les élèves qui nous restent encore, qui doivent encore aborder donc les autres continents. Merci beaucoup. Pause musicale. Waouh! Donc, après cette musique, vraiment, qui représente un petit peu l'esprit aussi fort de cette langue, de cette culture de la francophonie, Initials BB de Serge Gainsbourg, nous allons continuer notre voyage, notre parcours, et nous allons voyager vers la Méditerranée et l'Atlantique, puisque le Maroc est comme l'Espagne, un pays qui a cette double nature. Et pour ce faire, nous avons deux personnes exceptionnelles aussi qui vont nous présenter leur pays d'origine, de leur famille. Et elles sont très fières de pouvoir le faire. Je vous présente Fatima et Hala. Hala et Fatima, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence par exemple par Fatima. Et bon, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, quelles personnalités marocaines ont marqué l'histoire ou la culture ?
Et pour moi, le Maroc a produit de nombreuses personnalités influentes. Maroc, Mohamed V, le roi emblématique, a joué un rôle de clé dans l'indépendance du pays. En 1956, sa sagesse et son leadership ont façonné la nation moderne. Plus récemment, le roi Mohamed VI continue l'impulser des réformes sociales et économiques. Sur le plan culturel, la musicien et compositeur Nesle Rewen a révolutionné la musique populaire marocaine, mêlant tradition et modernité. La danseuse et actrice Saïda Jawed a aussi marqué la scène artistique sur le plan international. Le footballeur Mehdi Benatia a porté haute les couleurs du Maroc dans le monde entier.
Waouh, vraiment, vous avez dû faire un choix. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnalités célèbres au Maroc. C'est difficile de choisir, n'est-ce pas ? Merci de ce choix. Et nous passons tout de suite immédiatement à Hala. Et je vais lui demander une chose, parce que moi, je lui dis toujours que j'adore le couscous. Peut-être qu'elle m'invitera un jour, je ne sais pas, mais moi j'insiste. Hein. Moi, le vendredi, je suis libre pour manger le couscous. Hein. Bon, alors on va aborder justement la question de la cuisine, une cuisine qui est parmi mes préférées du monde entier, la cuisine marocaine et ses plats emblématiques. Hein. Allez, c'est parti, Hala.
La cuisine marocaine est célèbre pour ses savoures riches, ses épices et ses mélanges aromatiques. Le couscous à base de semences de blé, légumes et viande, agnou au poulet. Est un plat familial incontournable. Le tagine, un raccout, suit lentement de un plat de terre suite, proposer une variété de savous avec des ingrédients comme le prunon, les olives, le citron confit, ou les épices comme le cumin, la cannelle ou le safran. La pastilla, une tourne sucrée-salée à base de pigeon ou de poulet, est une spécialité raffinée. La pâtissière, comme le corne de gazelle ou les baklavas, ainsi que le thé, allemande accompagne souvent l'Europe. La cuisine marocaine reflétait la diversité culturelle du pays, mêlant influences berbères, arabes, andalouses et africaines.
Wow, je vous le disais avant déjà, j'avais un petit creux, un peu de faim là directement. Et là maintenant, bon ben ça revient, que c'est bon la cuisine marocaine. Merci beaucoup de cette approche vraiment ultra rapide. Et nous allons voyager très loin maintenant, nous allons nous éloigner et partir en Asie. En Asie, voilà, vers le Vietnam. Et nous avons ici trois jeunes hommes qui vont donc nous présenter brièvement donc cet espace. On va commencer peut-être par Miguel. Bonjour Miguel, bonjour. Ça va ? Merci. Alors, je vais vous poser une petite question historique. Je sais que vous avez bien travaillé sur cette question. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de l'Indochine française, hein, de cette ancienne colonie, et de la place du Vietnam dans cette période ?
L'histoire de l'Indochine française remonte au XIXe siècle, lorsque la France a commencé à coloniser la région pour des raisons économiques, stratégiques et culturelles. Le Vietnam, alors divisé en plusieurs régions et régions, a été intégré à l'Indochine française en 1887. Pendant cette période, la France a développé des infrastructures comme des routes, des écoles et des hôpitaux, tout en imposant sa culture et sa langue. Cependant, cette colonisation a aussi suscité des résistances et des mouvements nationalistes qui ont finalement conduit à l'indépendance du Vietnam en 1954. La période coloniale a laissé une empreinte durable sur les pays, non moins dans ses institutions, son architecture et sa société.
Merci beaucoup. C'est très complexe parce que ça, c'est vraiment un travail de recherche historique quand même. Donc, fin du 19e siècle, colonie française, jusqu'en 1954, indépendance après une guerre un peu compliquée. Je vous invite à découvrir le film Indochine, qui est vraiment très intéressant, avec Catherine Deneuve, Vincent Pérez, qui est né à Genève, qui a des origines alicantines, donc qui suit un parcours qui me ressemble quand même un petit peu. Et voilà, merci beaucoup. Et il nous reste encore deux personnes pour ce groupe aussi qui ont travaillé là-dessus. Et je vous présente donc Daniel, Dany et Raoul. Alors, et si on parlait de quelque chose un peu plus sympathique quand même? Par exemple, abordons les principales traditions et fêtes vietnamiennes qui reflètent la diversité culturelle du pays. Par exemple, à commencer, je ne sais pas, Daniel, Raoul.
Le Vietnam possède une richesse de traditions et de fêtes qui témoignent de sa diversité culturelle. Parmi les plus célèbres, on trouve les Tet Nguyen dans les nouvelles années lunaires, qui est la fête la plus importante, marque le début du printemps et rassemble les familles. Pour des rituels incertains, il y a aussi la fête de la mi-automne. Avec ses lanternes, il colorait et ses gâteaux de lune.
D'accord, bon bah c'est à nouveau des choses à manger, des gâteaux de lune et des fêtes vraiment très, très curieuses, hein, qui nous marquent donc ces origines quand même asiatiques différentes. Et Raoul, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être à ce que vient de dire votre camarade? Oui.
Les festivals locaux comme les festivals du Hue ou celui de Hoi An célèbrent souvent des traditions religieuses, historiques ou agricoles. La pratique du culte de l'ancêtre, la danse du lion et la musique traditionnelle comme le catru ou le quanho illustrent aussi la richesse culturelle du Vietnam. Cette tradition reflète l'harmonie entre le passé et le présent et les différentes ethnies et religions.
Donc, on voit donc qu'il y a une grande variété ethnique, de religions dans un pays très riche, donc qui est à la croisée de l'Inde d'un côté, de la Chine de l'autre, qui alimente un petit peu toute cette variété incroyable. Bon, passons maintenant, nous arrivons au continent africain à nouveau. On fait un retour en Afrique et ce sera à travers le Sénégal, un pays magnifique, un pays humain. Et nous avons pour ce faire deux personnes qui ont travaillé là-dessus. Et je vous présente tout de suite, immédiatement, Paola Sena, qui est chanteuse aussi. Hein. Elle chante, Paola Sena. Elle sera célèbre un jour. Je vous invite à la découvrir. Bonjour, Paola.
Bonjour.
Et Paola vient accompagnée de Zaira. Bonjour Zaira.
Bonjour.
Voilà. Alors, vous avez travaillé là-dessus, sur cette question. Et aujourd'hui, écoutez, moi, j'ai quand même un peu faim. Et je veux qu'on découvre, qu'on partage un petit peu la cuisine traditionnelle sénégalaise et ses plats emblématiques. Zaira, est-ce que vous pouvez nous parler de cette question?
Oui. La cuisine sénégalaise hérisse en savour et en tradition. Les plats les plus célèbres sont les thiéboudiens, un riz ou poisson souvent servi avec des légumes comme la patate douce, la carotte et la tomate. C'est un plat national qui symbolise la richesse de la mer et de la terre. Le jassa est un autre plat emblématique composé de poulet ou de poisson mariné dans une sauce à base d'oignons, de citrons et d'épices, puis cuit lentement. Il est souvent accompagné de riz ou de fonio. Les bernets de venin ou bourfourot sont des snacks populaires, ainsi que les fouta, pudding à base de millettes ou de fonio. La cuisine sénégalaise utilise beaucoup d'épices, notamment les piments, les gingembre et les poivres pour révéler les plats.
Merci beaucoup et vraiment bon ben à découvrir donc toute cette richesse. Mais avant de quitter le Sénégal, écoutons donc, découvrons avec Paula Sena un peu la géographie du pays et ses particularités.
Le Sénégal est situé en Afrique et de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique à l'Ouest. Sa géographie est caractérisée par un vent côtier fertile, les bassins du fleuve Sénégal au nord-ouest et le désert du Sahara au nord-est, la région de la Casamance au sud et un son verdoyant avec une forêt tropicale dense. Le pays possède et plusieurs parcs nationaux, comme le parc national du Niokolo-Kova, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui abrite une faune riche, et notamment des lions, des éléphants et d'hippopotames. Et le climat est principalement tropical, avec une saison sèche et une saison humide, influencée par la mousson sahélienne.
Donc vraiment un pays qui a beaucoup de choses à découvrir, le désert, la verdure et donc cette mousson incroyable. Passons pour finir déjà, puisque nous sommes en train de finir. Le temps est vraiment très très juste, nous avons très peu de temps. Mais nous avons deux personnes magnifiques, incroyables avec nous pour découvrir le Québec, le Canada. On passe en Amérique du Nord avec Alicia Estella, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut commencer? Peut-être Alicia, par exemple. Alors, je vais vous poser une question. On a envie de vacances, c'est presque l'été, là c'est l'été carrément. Quelles sont les fêtes traditionnelles et modernes qui rythment la vie au Québec et au Canada, selon vous?
Au Québec, les fêtes nationales, les Saint-Jean-Baptiste, célébrées le 24 juin, est une journée de fête où l'on met en avant la culture, la langue et l'histoire québécoise à travers des défilés, de concerts et de feux d'artifice. La fête de l'Halloween est aussi très populaire avec des activités pour toute la famille. La fête de la cabane à sucre en hiver est une tradition ancestrale où l'on déguste du sirop d'arabe et des mets typiques.
Merci beaucoup. On va demander à Estella parce que le temps passe et nous n'avons pas le temps. Alors c'est à Estella de continuer. Merci. Parce que le temps vraiment speed. Oui, continuez.
Au Canada, les fêtes nationales du Canada, les premières juillettes, célèbrent la Confédération avec des feux d'artifice, des festivals et des activités communautaires. La fête de Thanksgiving, importée des États-Unis, est aussi la très importante pour rassembler famille et amis autour d'un repas traditionnel. Et ces fêtes reflètent l'histoire, la culture et la fête nationale de chaque région.
Merci beaucoup. Nous n'avons pas le temps de vous poser des questions ni quoi que ce soit. Merci d'avoir réalisé toute cette recherche. On va vous écouter tranquillement. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission en version originale en français sur Radio MH, la radio de l'Université Miguel Hernandez d'Elche. Et c'est Pierre Vive qui vous parle, comme toujours. À la prochaine. Merci beaucoup au lycée Dylan Leblanc. Merci beaucoup.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.